5. Donc Jean chapitre 5, c'est le passage que nous allons étudier ce matin. Donc et nous allons lire les premiers 16 versets. Donc Jean chapitre 5, et je commence la lecture au verset 1. Il dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était là malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit: mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: et qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous conduise dans la compréhension et la mise en pratique de cette parole. Le titre que j'ai donné à ce passage et cette méditation ce matin, c'est justement « À qui donne-t-on de l'importance ?» Ici, il y avait le malade à qui Jésus donne toute son attention, et puis il a rencontré plus tard les Juifs qui, eux, donnaient de l'importance aux traditions plutôt qu'à l'homme. Hein, donc, c'est tellement souvent le cas dans notre monde, même encore aujourd'hui. Jésus est dans sa deuxième année de son ministère, donc c'est en l'an 27 de l'ère chrétienne, et il est de passage à Jérusalem parce qu'il y allait régulièrement pour célébrer les fêtes. Et là, nous avons le récit d'une guérison, d'un miracle, mais dans de tristes conditions. Hein, c'est là le cas, il est encore plus triste que d'habitude, et on va essayer de le développer un petit peu. Et en plus, on a un homme qui a perdu toute espérance. Il ne s'attend à plus rien du tout. Jésus va intervenir. Ça changera tout pour lui. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent cette même expérience et qui se trouvent dans des situations terribles, décourageantes, et personne ne s'occupe d'eux. Je voudrais dans un premier temps voir la triste condition humaine. Hein, donc là, quand il nous décrit le site de la guérison. Ensuite, nous verrons l'homme qui est sans espérance.
mais qui attire l'attention de Jésus. Ça, c'est toujours encourageant. Et puis ensuite, on verra cet homme. Puis tout d'un coup, il y a une nouvelle dimension à sa vie et il rencontre l'opposition. Donc, déjà dans la condition humaine, nous avons une description du contexte de ce miracle et le pourquoi peut-être même de ce miracle. Et dans les versets 2 à 4, et l'apôtre Jean nous décrit ce site, cette situation, hein, et nous pouvons qu'imaginer que Jésus est ému de compassion en voyant cette misère humaine. Et en particulier, il voit un homme qui le touche vraiment, et il va s'adresser à cet homme, sans en être sollicité. Hein. Personne ne sait qui il est, mais c'est lui, de sa propre initiative, et c'est ça le cœur de Dieu exprimé par Jésus-Christ, et il s'intéresse à cet homme. Il se trouve là, justement, près de cette porte de la ville, qu'on appelle la porte des brebis. Et ça provient certainement du fait que c'était par cette porte-là qu'on faisait venir tout le bétail pour le temple, et en particulier eh bien, les ovins. Hein, donc ils venaient et là ils allaient à leur mort, hein, parce que c'était pour le sacrifice. Et c'est là où Jésus même, eh bien, il peut s'identifier avec ses brebis, parce que lui aussi, dans peu de temps, eh bien, il devra se rendre là, à Jérusalem aussi, comme une brebis, muette devant ceux qui l'attendent, parce qu'il deviendra aussi le sacrifice pour le péché du monde. Hein, c'est Jean-Baptiste qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Jésus voit ses brebis et qui rentrent, et pour ne plus ressortir, c'est terminé. Mais Jésus-Christ, c'est autre chose, il mourra, oui, pour notre péché, mais il ressuscitera et il est vivant pour nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure nous pouvions chanter « J'entrerai dans ces saints lieux ». C'est cet endroit, bien, il n'a été identifié que beaucoup plus tard, lorsque les croisades sont arrivées, et ils ont trouvé justement cette piscine. Et grâce à cette mention qu'il y avait 5 portiques, ils ont pu l'identifier. Bien sûr qu'elle se trouvait, parce que Jérusalem en l'an 70 avait été rasée, donc il y avait beaucoup de débris, et l'ont trouvée à une vingtaine de mètres en dessous du niveau du sol, hein, du niveau actuel du sol. Ce qu'on trouve aussi de particulier ici dans cette piscine, c'est que de temps à autre, il y avait un bouillonnement qui se faisait dans ce bassin, et il était intermittent. Aujourd'hui, le bassin, on l'a identifié, mais bon, il n'y a plus ce bouillonnement. Mais il y a une autre fontaine, la fontaine des Vierges, qui se trouve à Jérusalem. Et là, il y a toujours ce bouillonnement. Donc, c'est vrai qu'il y a, il y a réellement une source par là. Et que certainement, c'était des arrivées subites d'eau qui créaient un bouillonnement. Mais la croyance de l'époque, c'était qu'un ange descendait et provoquait ce bouillonnement. Et donc, de plus, eh bien, qu'est-ce qu'on disait? Eh bien, on disait que le premier qui se précipite dans cette eau, après le bouillonnement, eh bien, il sera guéri. Et combien encore aujourd'hui des lieux de pèlerinage où, eh bien, ils ont chacune leurs histoires pour faire revenir les gens, pour faire espérer les gens. Et c'est conçu, il y a juste assez de détails pour faire espérer, mais pas assez pour garantir. Et là, cet homme est là, et Jésus voit que cet homme, il y avait un temps où il croyait qu'il pourrait trouver la guérison à cet endroit. Mais quand Jésus arrive là, eh bien, c'est un homme qui est complètement désabusé. Il n'y croit plus, mais il n'a pas où aller non plus. Et vous savez combien de gens encore aujourd'hui, eh bien, ont espéré, ont cherché, ils ont couru après certaines choses. Mais ils n'ont pas trouvé. Et ils ont fait de grands frais pour trouver la guérison. Ils ont été dans un lieu réputé. Ils ont été voir un certain homme qui pourrait les aider. Ils ont fait toutes sortes de choses, mais toujours rien. Et donc, et vous pouvez vous identifier à cet homme qui, là, après avoir fait tant d'efforts, eh bien maintenant, c'est plus la peine. Il n'y croit plus. Mais pire que cela, je vous laisse imaginer cette scène triste à laquelle peut-être Jésus a assisté. Tous ces malades, infirmes, aveugles, boiteux, handicapés moteurs, sont tous là et ils attendent de constater un mouvement dans l'eau. Et puis, imaginez la ruée qu'il pouvait y avoir chaque fois qu'il y avait un bouillonnement. Parce que chacun voulait être le premier. C'était important d'être le premier arrivé. Et c'est pas le moment des politesses. Et puis, vous pouvez imaginer qu'il y avait certainement parfois des fausses alertes, mais la bousculade était la même. Vous savez, vous avez déjà entendu ce qui se passe de nos jours. Quand à l'ouverture d'un magasin, le jour du Black Friday ou du Vendredi Noir, où les gens se bousculent pour attraper quelque chose, ou bien le premier jour des soldes, et tout ce monde qui attend, la foule qui attend à la porte, et dès qu'elle est levée, ils courent. Mais ça, c'est des gens bien portants. Mais ici, c'est des gens qui se bousculent, mais c'est des malades, des aveugles, des infirmes, des handicapés. C'est eux qui se bousculent, mais ça devait être terrible. C'est une grossière expression du chacun pour soi. Il y a de quoi vomir à voir cette scène, même rien que de l'imaginer. Et tout cela se passe à deux pas du temple. Et tout ici, tout est basé sur « il paraît que ». On dit que. Et peut-être que cette eau avait des vertus de bain thermal. Mais je vous laisse imaginer les pensées de Jésus quand il voit cette scène. Et combien il a dû être affecté et voir, mais ça c'était vraiment la souffrance humaine. Et Jésus est témoin de cela. En fait, vous savez que chaque fois que Dieu regarde la terre, il a l'impression de voir la même chose. Parce que nous, les êtres humains, nous avons ici, surtout ici en Europe, on a réussi, on sait comment maquiller la société et pour qu'elle paraisse. Les maisons sont belles, les rues sont propres, tout est peint. On a su maquiller la société. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la misère. Il y a beaucoup de misère, même dans les belles maisons. Et Jésus voit jusqu'à la misère humaine. Ce qui, peut-être pas physique, c'est pas parce que c'est des gens qui meurent de faim ici en Europe, mais c'est des gens qui sont désespérés, des gens qui sont dans la déprime, et même voire jusqu'à la dépression totale, et qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'aide de produits chimiques. Dieu voit cela et dit, mais c'est pas pour ça que j'ai créé ces hommes. C'est pas pour leur donner qu'ils aient une vie pareille. Et imaginez sa tristesse. C'est pas étonnant qu'un jour, eh bien, il a pensé à la cause de notre tristesse et au péché. Et puis il était prêt à sacrifier son propre fils, Jésus-Christ, pour pouvoir apporter une réponse à cette misère. Nous sommes habitués, on a vu que ça. Et on est plus choqués. Mais lui, avec ses yeux purs, il voit la situation humaine et comme Jésus, là, devant cette piscine, et il voit tous ces gens qui se bousculent, s'ils ne savent même pas où ils vont, qui vont tomber dans la piscine, dans le bassin, et peut-être qu'ils ressortent plus blessés que quand ils sont rentrés. Mais il y a cette scène-là. Mais après, vous savez, Jésus a des yeux qui ne cherchent pas à voir les scènes, parce que lui, c'est pas, il n'est pas une caméra qui essaie de voir le tout. Mais lui, il a des yeux qui cherchent les personnes. Et Jésus, imagine Jésus qui est là et qui voit cette scène, mais après il voit dans un coin, il voit un homme malade qui ne fait même pas d'effort. Les autres sont tous en train de se bousculer, en train de tomber, et il voit cet homme qui est là, qui ne bouge plus. Et de toute évidence, il est là depuis longtemps, et même la Bible nous dit qu'il est là depuis 38 ans, vous imaginez? Nous parlons de confinement, ça fait 2 mois et on ne supporte plus. Là, c'est 38 ans qu'il est là, devant cette piscine. Jésus a pitié de cet homme. Et il lui parle. Tout le monde est en train d'ignorer cet homme. Tous sont à la recherche de leur santé, en train de chercher leur amélioration. Certains, ils ont des amis qui les aident, mais d'autres se débrouillent comme ils peuvent. Mais lui, il est oublié. On a tellement l'habitude de le voir là que on n'y pense plus. Mais Jésus engage la conversation avec cet homme et il lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est une drôle de question qu'on demande à un malade, mais vous savez, quand on arrive à une situation de désespoir, eh bien on n'y croit plus. Hein, et pour nous, ça nous paraît étrange qu'il lui demande cette question, mais en fait, l'homme n'y pense plus, n'y croit plus, c'est plus dans sa tête. Quand il était venu, il y croyait. Mais maintenant, il n'y croit plus. Et entendez le désespoir dans la réponse de cet homme. Il dit, Seigneur ou Monsieur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il dit, c'est plus, ça vaut plus faire l'effort. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Et si j'essaye, ben j'y arrive pas, il y a toujours quelqu'un avant moi. Il se sent seul. Il se sent abandonné. Et en plus, il est complètement déçu. Avez-vous le même sentiment? Depuis des années, vous essayez d'avoir, d'obtenir. Et la constatation est que, ben, vous ne l'avez pas obtenu. Et vous ne voulez pas prononcer le mot échec. Mais la pensée est là. Vous dites, j'ai rien. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai essayé. J'ai essayé d'avoir des amis, j'ai essayé d'avoir de la volonté, de me motiver et tout. Mais maintenant, après un certain nombre d'années, eh bien, je vois que je n'ai rien fait. C'est souvent, et en psychologie, on parle de ça, la déprime de la quarantaine. On arrive, tant qu'on est dans la vingtaine, on est rempli d'espoir, on a des idées, on rêve, on a des grandes choses. On arrive à la quarantaine, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et cet homme-là, bien, il est à cette étape-là. Et peut-être que vous l'êtes aussi. Et il avait cru pouvoir réussir. Et vous avez cru pendant un temps. Et parfois, vous savez, ce qui fait traîner les choses, ce n'est pas que Dieu n'est pas là pour intervenir, mais c'est que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos forces pour le laisser agir. Vous savez, c'est l'expérience d'un maître nageur. Il voit une personne en train de se noyer. Elle se débat, mais il ne s'approche pas. Il attend jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se débattre. Et c'est à ce moment-là, il intervient. Parce que tant qu'elle se débat, tant qu'elle croit que pouvoir s'en sortir, lui, il met sa vie en danger. Et donc, il attend qu'elle se ne débat plus. Et puis, alors, à ce moment-là, elle se laisse aller. Et c'est là où il peut la sauver. Vous savez, parfois Dieu se trouve aussi devant cette situation du maître nageur. Hein, il voit la personne, il voit que la personne ne pourra pas s'en sortir. Mais tant qu'elle croit, et tant qu'elle essaie, et tant qu'elle se débat, eh bien, c'est pas la peine d'essayer. Et donc, Jésus attend. Et pour combien d'entre nous, eh bien, il attend depuis longtemps, hein. Et n'essayons pas de faire écouler le temps avec Dieu. Nous, notre temps, c'est la longueur d'une allumette, tandis que lui, il a une mèche infinie, d'une longueur illimitée. Vous savez que nous voyons que Jésus a pu régler le problème. Il s'est approché de cet homme. Il a vu tous les autres, il les a laissés. Eux, ils faisaient des efforts. Ils se battaient, ils se jetaient, ils n'avaient pas besoin de lui. Mais cet homme-là, eh bien, il est arrivé au point où il ne peut plus rien. Et donc là, Jésus s'approche de lui. Il dit, veux-tu être guéri? Et Jésus, en quelques mots, eh bien, il change toute la situation. Ce que cet homme attendait depuis 38 ans, eh bien, Jésus, en quelques mots, apporte soulagement. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Si simple que ça. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps, si c'était si simple? Vous savez, n'attendez pas 38 ans comme cet homme. N'attendez pas que vous n'ayez plus d'amis et que vous n'avez plus confiance ni en vous-même, ni dans les autres pour faire appel à Dieu. Ce n'est pas la peine d'attendre la dernière minute. Venez à lui, faites appel à lui. Hein, surtout pour ce qui est de votre situation, de culpabilité, votre péché, votre frustration avec vous-même et votre incapacité de performance. Si vous êtes arrivé au bout de vous-même, hein, c'est un peu comme le fils prodigue, hein, qui s'est retrouvé, quand il s'est retrouvé avec les cochons, et puis il s'est retrouvé avec l'envie de manger les caroubes que mangeaient les porcs, hein, et bien là, tout d'un coup, il a pensé à la solution. Il a dit, je vais voir mon père. Mon père a la solution. Hein, n'attendez pas que vous soyez désespéré sur le point en train de mourir de faim pour faire appel à Dieu. Nous voyons cet homme qui trouve du soulagement en un instant. Et il se lève et il marche. Vous savez, il nous est dit dans les Actes, au chapitre 3, Pierre et Jean étaient en train d'aller dans le temple et ils passaient par la porte dite la Belle. Et puis là, ils trouvent un homme paralysé depuis 40 ans, depuis sa naissance. Et Jésus et Pierre lui dit, lève-toi, marche. Et il nous dit, d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et je me mets à la place de cet homme-là qui, depuis 48 ans, il est là sur sa paillasse. Et puis tout d'un coup, il peut marcher. Et il peut porter son lit. Vous savez, et à peine s'il commence, il se lève et il commence à marcher, qu'il rencontre des gens qui sont là pour l'arrêter. Hein, des gens qui n'étaient pas là pendant les 38 ans, pendant qu'il était là et qu'il avait besoin de quelqu'un pour le jeter dans le bassin, ils n'étaient pas là, eux. Mais maintenant qu'il est guéri, eh bien, ils sont là pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le sabbat. Presque en train de lui dire, tu as mal fait d'être guéri. Dès qu'il trouve un peu de joie et de bonheur, c'est la douche froide. Et cet homme qui vient d'être guéri après 38 ans, eh bien, il se trouve obligé de longer les murs avec sa paillasse. Dans la honte, d'être guéri. Avez-vous expérimenté cela? Si un jour vous avez compris que Jésus-Christ était mort sur la croix, qu'il vous aimait, et vous avez lu, quelqu'un vous a parlé de ce Jésus et de ce qu'il a fait pour vous, et enfin vous avez trouvé quelqu'un qui s'intéressait à vous, qui vous aimait, et vous avez cru, vous avez placé confiance, et tout d'un coup vous aviez de la joie, vous étiez soulagé, et vous avez une perspective nouvelle, pas seulement pour l'éternité, mais même pour la vie. Et puis, dès que vous le partagez, dès que vous en parlez avec quelqu'un, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de se réjouir avec vous, de ce que vous ayez trouvé une réponse, ils disent, mais t'es sûr de ne pas être dans une secte? Ou bien ils vous disent, tu quittes la religion de tes parents? Jusque-là, ils ne s'étaient pas posé les questions pour demander dans quel état on était et comment on allait. Mais là, dès qu'on a trouvé la joie et on a trouvé une réponse, eh bien là, ils interviennent. Le pauvre homme, eh bien, il s'imaginait que celui qui avait le pouvoir de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » avait le droit de lui dire de marcher ce jour-là. Hein, Jésus, puisqu'il avait du pouvoir dans sa parole pour guérir l'homme, eh bien, certainement qu'il avait le pouvoir pour donner des ordres concernant le jour du sabbat. Et cet homme, eh bien, dans sa joie et sa hâte, il a oublié de demander le nom de celui qui l'avait guéri. Je fais remarquer, là, en parenthèse, je fais remarquer à ceux à qui on a dit, eh bien, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Eh bien, je fais remarquer qu'ici, cet homme, eh bien, il ne savait même pas qui était Jésus. Il n'a pas pu exercer de la foi en Jésus. Tout le pouvoir est venu de Jésus. C'est Jésus qui l'a guéri parce qu'il voulait le guérir, parce que le pouvoir est dans sa parole. Hein? Jésus est la parole de Dieu incarnée. Et cet homme, il a vu l'assurance qui était dans la bouche de celui qui lui parlait. Il était tellement désespéré, il a cru, il a obéi et il a été guéri. Sa foi, eh bien, il a entendu, il a fait confiance. Hein? Et donc, vous savez, je pense à un autre exemple, hein, Lazare quand il était ressuscité, hein, il n'a pas exercé de la foi hein, pour être ressuscité. Tout le pouvoir venait de Jésus. Hein? Donc, méfiez-vous de ces gens qui vous disent, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Et si eux avaient vraiment le pouvoir de Dieu, eh bien, ils pourraient le faire, même si je n'avais pas envie. Parce que Jésus a dit, mais si ses enfants se taisent et ne louent pas le Seigneur, les pierres crieront, même s'ils n'ont pas de bouche. Vous savez, Jésus avait guéri cet homme, et cet homme est parti dans sa joie, et puis finalement, il se retrouve avec de l'opposition, il se retrouve dans une situation, et vous savez, Jésus le suit de loin. Et de pas si loin, hein, de pas si loin, parce que il avait commencé une œuvre chez cet homme. Et comme dit l'apôtre Paul, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jésus, et comme nous l'avons vu dimanche dernier avec cet aveugle né, eh bien Jésus l'a retrouvé plus tard. Eh bien ici, Jésus aussi va le retrouver. Et il va le retrouver dans le temple, il nous dit. Cet homme ne savait pas à qui il avait guéri, mais le voilà dans le temple. Parce qu'en tant que dans l'état précédent, il ne pouvait pas entrer. Mais là, maintenant qu'il est guéri, il peut entrer. Et c'est comme nous qui avons nos péchés pardonnés et nous avons été purifiés par le sang de Christ. Eh bien, il nous dit que nous pouvons entrer avec assurance dans la présence du Seigneur et le louer, l'adorer par la prière et par les louanges. Et Mais vous savez, c'est très bien d'être dans le temple. Surtout, c'est plus agréable d'être dans le temple que près de cette piscine superstition. Mais être dans un lieu de culte ne suffit pas. Hein, ça ne suffit pas d'être à l'église. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais ça ne suffit pas. Cet homme était dans le temple, mais vous savez ce que Jésus lui dit ? Il dit, c'est pas juste une question d'être dans le temple, il faut un changement de mode de vie. Il dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il dit, oui, tu as été guéri, mais ça c'est seulement pour te donner la possibilité, te rendre capable de vivre une autre vie que celle que tu vivais avant. Donc ne pêche plus, vis cette nouvelle vie. Être guéri ne suffit pas. Mais il faut vivre pour celui qui nous a guéris, une vie de pureté. L'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates 5, verset 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, hein, si nous vivons par la vie que nous a donnée l'Esprit de Dieu, hein, la nouvelle naissance c'est par l'Esprit, il dit, si nous vivons par l'Esprit, eh bien aussi marchons selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la Bible, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole. Donc Jésus s'est présenté à cet homme, il a dit qui il était, afin que l'homme puisse placer foi, hein, il sait qui l'a guéri, et il place sa foi en Jésus. Et en plus, cet homme s'est dit, mais bon, maintenant, peut-être les pharisiens, ils ne savaient pas qui m'avait guéri. Peut-être je vais leur dire qui m'a guéri et peut-être que ça aidera la situation. Ils seront moins durs avec moi. Et donc, il va les voir et leur dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri. C'est lui qui m'avait dit de prendre mon lit et de marcher. Mais ça n'a pas aidé la situation. Parce que ce que Jésus faisait ce jour de sabbat, pour eux, c'était contre la loi. Tandis que qui savait plus que Jésus ce à quoi pensait Dieu quand il a écrit ce commandement avec son doigt sur la pierre, sur les tablettes de Moïse. Lui savait se conformer. Mais eux, plutôt que de se fier à sa manière de pratiquer ce commandement, eh bien, eux avaient leur interprétation, leur tradition, et ils donnaient de l'importance à leur tradition plus que tout. Et c'est encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous pratiquons ce qui est conforme à l'Écriture. Hein, je dis constamment, on travaille avec la Bible ouverte, on est en train de lire la Bible, on veut savoir ce que dit la Bible, mais ce n'est pas parce que nous pratiquons ce qu'enseigne la Bible et ce qui est biblique que nous sommes approuvés. Hein. Oh non, on reçoit de la critique. Pourquoi ? Parce que ce que nous enseignons n'est pas conforme à certaines traditions, ce qui a été reçu des pères. Et donc, on est critiqué. Mais, vous savez, Jésus, il suit la pensée de Dieu. Et cet homme qui a été guéri, eh bien, il doit suivre Jésus. Jésus est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, que ce soit la première fois, ou que ce soit pour la communion, et que ce soit pour la vie de tous les jours. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Vous savez, je reviens à mon titre, la religion donne de l'importance aux traditions, aux dires des pères. Mais Jésus s'intéresse à la personne et il s'intéresse à vous ce matin et il veut votre bien. N'attendez pas que les 38 ans soient écoulés, mais venez à lui dans l'état où vous êtes et il vous prendra et avec quelques mots de sa parole, eh bien, il pourra vous relever. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez besoin qu'on vous aide et qu'on vous encourage, eh bien, écoutez, appelez-nous. Hein, je vous donne le numéro de téléphone, le 06 62 57 11 70. Et nous serons contents de vous aider à trouver celui qui a guéri cet homme et qui a changé sa vie. Nous voulons chanter un chant pour clore. Et nous allons prendre le chant de 346. Écoutez l'appel du berger, le 346.
Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherche sous les, ça vaut-nous le prix d'une âme. Cherche sous les, le beau berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va les aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Petit pas, comptez sur nous, ne voulons-nous pas aller tous dire à ceux qui nous sont perdus que nous les voulons pour Jésus.
Père Céleste, nous savons que tu n'as pas changé avec le temps et ce que nous avons vu s'exprimer dans la personne de Jésus-Christ, dans cette situation mais si répugnante, eh bien c'est toujours le sentiment qu'il a. Et Seigneur, oui, il y a des brebis. Il y a des brebis qui sont perdues et qu'il faut retrouver, qui ont besoin de trouver le bon berger Jésus-Christ. Et puis il y a d'autres brebis qui sont égarées et que le bon berger cherche. Seigneur, que nous soyons de parmi les brebis ou perdus ou égarés, ou que nous soyons des assistants de ce berger qui cherche ses brebis. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, et aide-nous à être fidèles. Seigneur, que cette compassion que Jésus a eue avec cet homme, eh bien, soit une source d'encouragement pour celui qui souffre ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.